Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Au sommaire de ce 70e numéro de Force 7, Manosque a accueilli un forum pour la rénovation énergétique et l'habitat, reportage dans ce magazine. Une députée européenne sur le terrain, nous entendrons Irène Tolleré qui s'est rendue dans les Alpes de Haute-Provence évoquer les fonds européens. L'école hôtelière de Sisteron a accueilli la semaine des chefs, une belle opportunité pour les élèves, l'interview de Franck Perrard pour Force 7. À Digne, la fin de vie fait débat autour du film Plus que jamais, le reportage d'Odile Frison dans ce magazine. Comme chaque année, les médaillés jeunesse, sport et engagement associatif vont fêter les bénévoles. Des explications avec Alain Canu au micro de Chris Alessandri. Manosque a accueilli un forum pour la rénovation énergétique.
Approche de l'hiver, inflation généralisée et hausse des prix de l'énergie, ce forum sur l'habitat et la rénovation de logements ne pouvait mieux tomber. Maîtriser et contrôler sa consommation d'énergie comme favoriser l'isolation thermique de son lieu de vie sont au cœur des préoccupations de bien des ménages. La tenue de ce forum porté par la ville, l'agglomération, le parc du Luberon et les partenaires du secteur a pu répondre à bien des visiteurs. Établir un diagnostic énergétique, parfaire l'isolation d'un logement ou bien encore installer des fenêtres et fermetures isolantes, ce qui paraissait superflu il y a peu, est devenu crucial et les propositions et réponses existent tout autant que des matériels et matériaux performants, sans oublier les aides fiscales dont peuvent bénéficier les demandeurs. Je vous propose d'écouter trois participants de ce forum. Valérie Pesson pour le Parc du Luberon, co-organisateur de l'événement, puis Alain Delceau pour le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, qui alerte sur des situations sociales tendues. Mais d'abord, Philippe Viel, qui dirige l'Agence locale de la transition énergétique, ALTE, un acteur essentiel et reconnu sur toutes ces questions qu'accompagnait également son président Pierre Chenet. Philippe Viel.
Le sens de notre travail, eh bien, c'est d'aider les territoires à accompagner leur population ainsi que les entreprises du tertiaire privé pour rénover les logements et les locaux. C'est également d'accompagner les gens lorsqu'ils ont des projets pour leur permettre de s'y retrouver dans le monde de la rénovation.
C'est une association qui existe depuis longtemps ?
Oui, la LTE existe depuis 20 ans sur le département de Vaucluse et est présente depuis plus de 10 ans sur le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Je suppose qu'avec la hausse des tarifs de l'énergie, vous avez de plus en plus de demandes.
Oui, actuellement, on a notamment depuis le printemps 2022 une bonne augmentation de la demande, mais qui est également liée à la communication faite par l'État, les départements, le département des Alpes-de-Provence ainsi que les intercommunalités.
Avec des solutions comme par exemple MaPrimeRénov.
Nous recevons l'ensemble des personnes qui souhaitent avoir des renseignements au départ, des renseignements sur la rénovation. Ce qui veut dire qu'on va orienter ensuite les personnes en fonction de leur niveau de rémunération vers différentes solutions. Donc ça peut être MaPrimeRénov, ça peut être MaPrimeRénov Sérénité. Dans ce cas, on les oriente vers d'autres partenaires comme Logia, Solia.
Comment est-ce qu'on s'adresse à vous de manière spontanée ou bien par mail et à l'intérieur de salons comme celui-ci ?
Effectivement, on a plusieurs clés d'entrée. La première, c'est un numéro de téléphone. Les usagers peuvent appeler lors de journées de permanence. On a une permanence téléphonique journalière. Ils peuvent appeler tous les jours de 9h à 17h. Et ensuite, nous avons des permanences physiques qui se tiennent suivant un planning sur différentes communes des Alpes-de-Haute-Provence. Là, ce sont des permanences où nous recevons les gens sur rendez-vous. Et enfin, sur notre site internet, tous les usagers doivent remplir un formulaire qui leur permet de prendre un rendez-vous, de préparer ce rendez-vous de manière à ce que notre conseil soit le plus efficient possible.
On doit rappeler aussi, bien évidemment, que vos conseils sont gratuits.
Oui, tout à fait. Totalement gratuit. On peut rappeler également que nous n'allons pas vers les personnes, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui viennent vers nous. Donc si les gens, on va dire, sont sollicités par des personnes à leur domicile ou au téléphone, ce n'est absolument pas les espaces Conseil France Rénov' de la LTE ou du Parc Naturel Régional du Luberon, mais ce sont bien des entreprises qui souhaitent vendre leurs produits, placer leurs produits.
Valérie Pesson, vous êtes vice-présidente du Parc naturel régional du Luberon et vous avez participé à cette organisation.
C'est ça, on a participé à cette organisation de ce forum pour une première sur la ville de Manosque. Et on est vraiment très heureux de participer pour une première.
C'est un gros besoin, la rénovation énergétique sur le territoire.
Oui, on a énormément de dossiers et le vent est en poupe parce que tous les dossiers s'accumulent chaque jour, on va dire. Et le territoire porte vraiment cette transition énergétique avec beaucoup de volonté.
Vous travaillez aussi en lien avec plusieurs partenaires, que ce soit l'agglomération, le département, la région et bien sûr les associations du territoire.
Oui, il y a toutes les associations, comme vous avez cité les EPCI, il y a aussi l'État par le biais de l'ANA. Il y a beaucoup d'acteurs qui mettent en commun leurs énergies, c'est le cas de le dire, pour faire avancer les dossiers des particuliers.
Avec le coût de l'énergie qui ne cesse de grimper, c'est une évidence, il va falloir s'y mettre, cette rénovation énergétique.
Oui, il faut s'y mettre, en avoir la volonté bien entendu, mais de plus en plus de moyens sont mis à disposition, donc c'est pour ça que ce forum est très intéressant, et il est tenu jusqu'à 17h sur l'esplanade du cinéma du CGR à Manosque, venez nombreux, c'est très très intéressant, vous avez des corps de métier, des particuliers, beaucoup d'échanges sur ce forum.
À vos côtés, Alain Delceau pour le département des Alpes-de-Haute-Provence, le département est aussi un élément qui révèle les besoins en rénovation énergétique.
C'est sûr, nous avons un service dédié à la rénovation énergétique et donc on a, en association avec la LTE et le Parc naturel régional du Luberon, nous avons mis en place cet objectif en 2021. Nous travaillons bien entendu avec la région sud, le sud PACA, et nous travaillons également en financement avec les CEE qui sont reversés.
Vous l'avez dit aussi, 69% des logements sont énergivores dans le département.
Sur le département des Alpes-de-Haute-Provence, oui, malgré la faible population, c'est 69% des logements qui font partie des dernières catégories, donc très énergivores, d'où l'intérêt aujourd'hui de travailler sur ce sujet, et pas que, on l'a dit.
Il y a également des aides publiques qui sont prévues.
Tout à fait, les aides publiques sont prévues dans ce domaine-là, avec les CE, avec d'autres choses, et c'est vrai que le département s'est engagé dans cette marge, et nous sommes très bien placés au niveau régional, dans la mesure où nous arrivons, si je ne m'abuse, le comité de pilotage du 5 décembre va le montrer, nous sommes en deuxième position sur l'ensemble des départements à avoir accompli le plus de conseils, de rendez-vous conseils.
Vous l'avez dit aussi, il y a des situations dramatiques dans notre département, avec notamment des personnes âgées qui sont obligées de choisir soit se chauffer, soit manger. C'est dramatique.
C'est le retour en fait des ADMR, c'est le retour des petites communes où les CCAS, même s'ils n'existent plus, mais il y a toujours une commission communale d'action sociale qui se rend chez des personnes âgées. Aujourd'hui, vu l'augmentation des coûts de l'énergie, certaines personnes âgées, qui sont même parfois propriétaires de leur logement, préfèrent ne pas payer leurs factures et s'abstenir de manger et n'iront même pas non plus dans les Restos du Cœur parce qu'ils ont trop de fierté pour aller dans ces Restos du Cœur. Et là, on y va droit et heureusement que nous avons des organismes comme les SIAD, la DMR, qui permettent de mettre en avant ce problème. Ça va devenir critique cet hiver. Si dans nos communes de montagne ou nos communes rurales, le chauffage est quelque chose d'essentiel, mais se nourrir aussi. Que le gouvernement et d'autres se mettent quand même à l'écoute de ces gens, ça fait plusieurs années qu'on en parle déjà. Mais on n'a pas évolué dans ce domaine-là. Et par contre, cette année, on va avoir la catastrophe.
L'Europe, si près, si loin.
Entre Parlement et Commission, règlements et directives, sans oublier les sigles FEDER, PAC, FSE et autres leaders, l'Union européenne reste une réalité complexe à aborder. Mais de l'idée fondatrice des Jean Monnet et Konrad Adenauer, il reste cependant la notion de solidarité. une notion difficile à harmoniser lorsque 27 pays sont concernés. Ce postulat établit la visite sur le terrain d'une députée européenne venue visualiser les effets et perspectives des fonds leaders sur le 04 reste un événement. Irène Tolleret est élue d'Occitanie et siège à Strasbourg. Elle fut aussi maire et présidente d'un GAL, un groupe d'action locale, ce qui lui donne toute crédibilité pour parler concrètement des fonds LEADER. LEADER pour liaison entre action de développement de l'économie rurale, en fait un gros porte-monnaie dans lequel les acteurs ruraux peuvent piocher au gré des projets. Et ce n'est pas simple, car la rédaction très technique des dossiers reste une difficulté majeure pour les collectivités, entreprises ou associations qui sollicitent ces fonds. Leur instruction pointilleuse atteint des sommets de tracasseries administratives et, cependant, elle flèche, comme on dit dans ce milieu, et permet des actions sur le territoire. Les aides de l'Union européenne sont essentielles pour les zones rurales qui, de l'agriculture à l'environnement et de la solidarité à l'aménagement, sollicitent les fonds communautaires. Mais comment favoriser l'innovation ? Respecter les particularités et assurer l'équilibre entre les pays, la tâche n'est pas simple. Accompagnée d'élus locaux, représentants des GAL et du parc du Luberon, Irène Tolleret s'est rendue à Maligé, Manosque et Fort-Calquier auprès des bénéficiaires des fonds LEADER. Sa visite s'est achevée à Fort-Calquier par un débat constructif, plein d'écoute et de conseils. Elle y a regretté le manque d'intérêt des médias pour l'Europe, alors que celle-ci est omniprésente dans nos quotidiens, et l'élu a aussi dit combien la crise alimentaire et énergétique nécessite une réaction européenne. Irène Tolleret, vous êtes députée européenne. Quel était le sens de votre visite ?
Eh bien, je suis venue pour regarder les projets financés avec les fonds européens dans la ruralité. Et il se passe qu'ici, c'est un programme spécifique qui a une approche qui part des acteurs du territoire. C'est eux qui choisissent les projets, qui les conçoivent. Et donc, j'ai été regarder les projets qui étaient financés. Donc, ça va de matériel pour avoir de la farine bio locale, en passant par des outils pour avoir une meilleure alimentation locale et durable. Donc, de très beaux projets qui créent des magasins paysans. Donc des beaux projets qui créent de l'emploi et qui permettent à la ruralité ici d'être particulièrement active, conquérante et avec donc un grand bonheur d'y vivre.
Avec également des financements européens, et c'était le nerf de la guerre et le centre des discussions ici même à Fort-Calquier.
Tout à fait, parce que le budget européen qui retourne vers les territoires, ce sont des sommes très importantes. Le budget de la cohésion, c'est plus de 300 milliards d'euros. Le budget LEADER fait partie de la PAC, c'est 396 milliards d'euros. Donc on a beaucoup, beaucoup d'argent. Cet argent qui va être donné à des projets locaux à hauteur de parfois 80% ou même plus sur certains projets, eh bien, il y a un minimum d'administration à faire, mais le minimum européen n'a rien à voir avec la complexité qui peut se développer en local. Et donc, je venais expliquer aussi à tout le monde que la simplification, on doit tous y jouer un petit peu, c'est-à-dire chacun doit, à chaque fois qu'on travaille sur des textes qui peuvent aider l'économie locale, le bien-vivre local, on doit essayer de se dire simplifions la vie en ayant des coûts simplifiés et aussi en se faisant confiance.
Et on ne peut pas faire malgré tout l'économie de la technique, et évidemment les dossiers sont très techniques.
Mais dans le cadre de LEADER, les dossiers sont montés par des salariés qui sont payés essentiellement par l'Europe et peut-être le département, et qui sont localisés à Fort-Calquier. Donc les projets LEADER en local, eh ben, à Fort-Calquier, vous avez deux personnes qui vont vous aider à les monter.
Alors vous avez vous-même un parcours personnel intéressant, puisque vous avez été dans un GAL, un groupe d'action locale, qui vous donne une possibilité, et puis surtout qui illustre très bien ce qu'on peut faire au niveau local et le travail qu'on peut faire avec des partenariats.
Tout à fait. Je crois que le programme LEADER a 30 ans, et il y a 30 ans, les personnes qui l'ont monté, je pense à Yves par exemple, ont été visionnaires, c'est-à-dire comprendre que pour que la ruralité, ça fonctionne, il fallait qu'il y ait un groupe d'hommes dévoués sur un territoire qui se saisissent du sujet, et que ces hommes, ils n'étaient pas élus ou pas élus, ils étaient tous ensemble représentant la dynamique de ce territoire, mais avec une majorité issue non pas du public mais du privé. Cette vision-là fait qu'aujourd'hui, le GAL du Luberon est un GAL très dynamique, qui fait beaucoup d'actions. Et ce que je regrette juste, et je vous remercie, c'est qu'on n'en parle pas suffisamment du fait que ces stratégies européennes pour la ruralité s'appliquent ici et que donc les habitants bénéficient de ces programmes européens dans l'amélioration de leur vie quotidienne.
Alors il y a deux éléments que j'ai retenus de votre intervention et ça revient justement sur la communication. Vous avez parlé du manque et des défauts de communication de la presse nationale, notamment par rapport à l'Europe. Et puis vous avez dit de manière aussi très, très simple de dire que la guerre en Ukraine, malgré le drame que ça représente, nous a remué et nous a forcé à regarder notre avenir différemment.
Oui, Jean Monnet a dit, donc un des pères de la construction européenne, a dit l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des petits pas ou petites solutions qu'on aura trouvées par rapport à pour sortir de cette crise. Et c'est exactement ça. Je crois que dès qu'on a des gros sujets très importants, très urgents, on a quand même bien vu maintenant qu'à 27, on trouvait des meilleures solutions que chacun dans son coin, c'est-à-dire en se mettant en concurrence les uns avec les autres. Imaginez si on n'avait pas acheté les vaccins en commun, la France aurait acheté des vaccins en se mettant en concurrence avec l'Allemagne. Donc aujourd'hui, cette Union européenne, eh bien, elle fonctionne. On doit changer les choses qui ne vont pas. Et je peux vous dire, on est mobilisé pour que ça fonctionne mieux. Mais je crois que ce sujet de communication, il est extrêmement important. Je regrette, et je l'ai dit, que les médias nationaux prêtent plus d'attention à des élections aux États-Unis, y compris dans des cantons obscurs, que au discours de politique générale de la présidente de l'Union européenne quand elle annonce des fonds spécifiques par exemple pour équiper nos pompiers, la force de sécurité civile. Il y a eu des annonces magiques qui ont été faites pour que nos pompiers aient beaucoup plus de moyens au niveau européen. C'est intelligent. C'est ça en France, on n'en entend pas parler sauf votre radio bien sûr.
La semaine des chefs retrouve l'école hôtelière de Sisteron.
Le principe est simple, un jour un chef pour cet événement organisé par l'école hôtelière de Sisteron au cœur de la cité scolaire Paul Arène. Depuis le lundi 21 novembre et donc à chaque jour de la semaine, un chef, mais pas n'importe lequel. Ce sont plusieurs professionnels prestigieux avec un univers culinaire qui les distingue. Ils ont pour mission de concocter des menus que les élèves devront préparer et servir en salle sous l'œil attentif et la toque du maître que. Durant cette semaine exceptionnelle, tous les chefs qui interviennent ont un point commun. Ils sont tous issus de l'école hôtelière de Sisteron. C'est un atout majeur pour les élèves qui vont pouvoir travailler le temps d'un service avec des guides prestigieux et découvrir ainsi des visions différentes de la cuisine. C'est également une chance pour les visiteurs de séjourner de pouvoir déguster des plats dignes des restaurants de ces 6 chefs. Responsable du lycée hôtelier de Sisteron, Franck Perrard, répond aux questions de Chris Alessandri.
Franck Perrard, en quoi consiste la semaine des chefs ici à Sisteron ?
Ben écoutez, la semaine des chefs, c'est un peu une institution parce que ça fait entre 15 et 20 ans qu'on fait ça. Alors pour cause Covid, vous l'imaginez bien, on a dû arrêter pendant 2 ans. Et la tradition, en fait, c'est d'inviter des chefs prestigieux de la région pour ouvrir nos cuisines et nos restaurants du lycée hôtelier. Parce que nous n'avons pas peur ici, à Sisteron, d'ouvrir nos ateliers et de les confier à des professionnels. Je dis pas peur parce qu'en réalité, on pourrait se replier sur nous-mêmes, cacher nos pratiques, ne pas en être fiers, nos locaux. Et c'est l'inverse, en fait. Nous sommes fiers de notre lycée, nous sommes fiers de la façon dont il est entretenu et nous sommes fiers de nos pratiques professionnelles. Du coup, on invite des professionnels qui s'emparent de l'outil de travail. Et ça permet aussi à nos élèves de voir leur lycée sous un angle différent, un peu plus professionnel, avec des gens expérimentés qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est un système gagnant-gagnant. Pour le professionnel, c'est un éclairage particulier. métier. Ça peut parfois être l'occasion de repérer un jeune avec qui il aura l'ambition de travailler après. Et puis pour nos élèves, c'est l'occasion de voir quelque chose de différent et surtout des cuisines qui sont différentes d'un professionnel à l'autre. Cette année, c'est un peu particulier. On a demandé exclusivement à des anciens élèves de venir. Donc c'est une dynamique un peu différente pour nous et c'est un peu un aboutissement en fait. Quand vos anciens élèves reviennent et jouent le rôle de professeur, c'est l'aboutissement de notre travail. C'est aussi une façon pour nous de montrer aux élèves une perspective. Parce que c'est vrai que dans notre société, on manque parfois un peu de perspective. Et pour nos élèves, imaginez que... parce qu'en fait, ceux qui viennent sont jeunes. Hein. Ils ont tous moins de 40 ans. Ils sont même pour certains moins de 30 ans. Sur les 4 qui sont là cette semaine, 3 ont leur propre affaire. C'est dire à quel point le chemin parcouru a été important. Et c'est vrai que pour nos élèves, c'est une perspective extraordinaire. C'est un message positif. Alors pourquoi s'en priver ?
Comment se passe la rotation avec les chefs ? Parce que c'est planifié vraiment dans le temps et en fonction également des différentes interventions.
Alors en fait, ce qu'on fait, d'abord, on sélectionne pour qu'il y ait une cohérence dans l'offre, parce qu'en fait, on peut pas passer d'une cuisine à l'autre aussi simplement. Et après, en fait, c'est un contact qui s'opère avec le chef, il nous donne ses disponibilités. Ensuite, on bâtit la semaine comme ça, on leur donne un coup matière, on leur dit, voilà, nous, on va vendre le menu tel prix. Donc, vous ne devez pas dépasser, on va dire, 15 ou 16 euros pour l'intégralité du repas des 3 ou 4 plats. Et ensuite, ils nous remettent leur copie, le menu, leur menu signature, en fait. Hein. Ça correspond à ce qu'ils aiment faire. On passe les commandes de marchandises, on organise les réservations et le jour J, les clients viennent et la semaine est complète depuis plusieurs semaines déjà. Ça concerne une centaine d'élèves à peu près. Et le nombre de couverts, alors on a choisi de limiter là parce qu'on on a beaucoup de monde, on a beaucoup d'activités, mais on est quand même à la suite du Covid qui nous a impacté pendant un an et demi. Hein. Donc on a limité les repas à 40 pour pouvoir faire un travail de qualité. Et donc sur les 4 services, on aura 160 couverts extérieurs, mais on aurait pu faire 200. Il y a même un soir, j'ai refusé 80 personnes.
C'est une véritable aventure culinaire que vous proposez. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail ? Qu'est-ce qui sera au menu ?
Alors moi, j'ai pas tout en tête, je peux vous dire ce qui a été fait hier soir. Alors c'est pas forcément des choses prestigieuses auxquelles on pense, hein, style truffe, homard, etc. C'est pas l'objectif en fait. L'objectif c'est plutôt de sublimer les produits, de mettre en exergue leur authenticité, leur saveur propre. On est bien loin de cette cuisine qui masquait les goûts, qui travaillait exclusivement sur le produit en disant voilà, moi je mets du homard à la carte ou je mets du foie gras ou des choses comme ça. D'ailleurs, on n'a plus de foie gras nous, puisqu'on est en pénurie et on a choisi de pas en travailler cette année jusqu'à Noël pour des raisons de coût. Donc en fait, une cuisine moderne, c'est une cuisine qui ne triche pas sur le produit, ne triche pas sur les quantités, ne triche pas sur la couleur, sur la pointe de cuisson, sublime le produit au maximum. Donc c'est ça l'idée maîtresse de la semaine.
Il y a forcément un impact sur la ville également avec cet événement qui se déroule depuis de nombreuses années à présent.
C'est quand même une joie de voir qu'en quelques années, plusieurs restaurants ont ouvert leurs portes à Sisteron. Et alors vraiment, je parle de mémoire, mais je ne crois pas qu'il y ait un seul restaurant qui ait ouvert ses portes où le propriétaire ou le chef ne soit pas issu de l'école hôtelière de Sisteron. Donc là, on a 3 chefs de Sisteron qui viennent. L'Oppidum, Charlie Renon, donc rue de Provence, très connu des Sisteronnais. On a ensuite Il était une fois. C'est à peu près le même style de cuisine, c'est Juan San Pietro. On aurait pu faire venir, je ne l'oublie pas, parce que c'est un partenaire aussi de l'école hôtelière qui lui-même a fait... les deux premiers ont fait l'école hôtelière, mais je pense aussi à Nicolas Brémond, c'est Gustero, que j'avais sollicité, qui souhaitait venir, mais que pour des raisons d'organisation interne, on a choisi de faire venir l'année prochaine. Ensuite, on a un autre chef originaire de Salignac, qui a fait l'école hôtelière de Sisteron, mais qui, lui, est propriétaire pour moitié des Jardins du Quai à L'Isle-sur-la-Sorgue, qui est une très, très belle maison aussi. Et on a un ancien élève, alors lui, qui n'est pas de Sisteron, qui vient du Saint-Estèphe au Tolonnais, à Aix-en-Provence. Donc, c'était un macaron Michelin rattaché à un hôtel 5 étoiles et qui vient de prendre un challenge sur Pertuis, l'hôtel-restaurant Les Oliviers. Voilà. Donc, on a 4 chefs présents, 2 de Sisteron, 2 extérieurs. Et on a un cinquième partenaire, Nicolas Brémond, que je suis obligé de citer du Ségustéro. Il sera pas là, mais il est là par la pensée.
Deux petits mots sur l'ambiance qui règne entre ceux qui viennent apprendre et ceux qui viennent pour apprendre.
En fait, il y a une espèce d'admiration parce que pour un élève qui rentre à l'école hôtelière, enfin 9 élèves sur 10 qui rentrent à l'école hôtelière, ils rentrent pour faire de la cuisine. Ils n'y rentrent pas ou peu pour faire du service ou de la gestion ou de la direction. Initialement, ils viennent pour faire de la cuisine, de la pâtisserie. Et voir des jeunes, parce qu'ils font jeunes, ils ont, je crois que Christophe Puizzi, qui est le plus jeune, il doit avoir 24 ou 25 ans. Et voir un jeune de 24 ans, c'est-à-dire de même pas 10 ans de plus que soi, dans la position du professeur qui a réussi, qui a sa propre affaire et qui vient, moi je trouve que pour nos élèves, c'est du bonus absolu. Et on voit, alors, on n'a pas de discipline à faire pendant une semaine, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on a des élèves qui sont un peu turbulents. Donc là, pas de discipline, parce qu'ils sont au garde à vous quand le chef est là. Et deux, on voit bien que ce qui fait sens chez eux, c'est ça en fait, c'est la pratique, la réalisation, l'aboutissement de quelque chose.
la fin de vie en débat avec Plus que jamais.
Une cinquantaine de spectateurs a assisté à la projection de Plus que jamais et participé au débat avec l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital de Digne-les-Bains. Ce film traite du deuil, de la perte d'un être cher. On suit Hélène et Mathieu, heureux ensemble depuis de nombreuses années. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour. Hélène et Mathieu sont interprétés par Vicky Krieps et Gaspard Ulliel, dont ce fut le dernier film, une émotion supplémentaire. Au micro d'Odile Frison, Annie Pegolotti, présidente de la Fédération Jalmalve, jusqu'à la mort accompagnait la vie, puis Philippe, un spectateur, nous livre avec beaucoup d'émotion ce qu'il a pensé du film.
On vient de voir ce film Plus que jamais au Ciné-Étoile, donc en partenariat avec Jalmalve et l'équipe de soins palliatifs de Digne-les-Bains.
On remercie l'équipe d'être venue répondre aux questions à la fin du film. On remercie la directrice du cinéma qui a fait un tarif préférentiel et qui nous a elle-même indiqué le film qu'elle avait vu. Et donc c'est une soirée qui a réuni plus de 50 personnes. Donc nous en sommes ravis et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine action pour le grand public, dans le sens où nous sommes toujours dans la défense de la loi Leonetti-Kleps pour que les personnes, quand tout va bien, pensent bien à rédiger leur directive anticipée et bien comprendre que le soin palliatif, ce n'est pas synonyme de mort imminente, c'est le fait d'être pris en charge très bien par une équipe pluridisciplinaire qui, quand on ne peut plus traiter sa maladie. Mais tout reste à faire et on sera bénéficiaire des soins de la plus grande qualité. Et Jalmalve est là aussi pour vous accompagner et pour vous donner tous les renseignements possibles. La permanence se tient au centre des Michel de 14 à 16 heures. Les 4e mardis du mois. En décembre, ce sera sûrement le 3e parce que le centre des Michel sera fermé. Voilà, tous les 4e mardis du mois au centre des Michel de 14 à 16 heures.
Alors moi, j'avais une question à poser parce que j'ai discuté récemment avec un médecin qui me disait que c'était un peu remis en cause l'histoire de directives anticipées ou de souhaits depuis une quinzaine de jours.
Alors normalement, les directives anticipées sont forcément appliquées. Ce qui est remis en question, c'est le fait de vouloir faire plus que la sédation terminale. Bon, on verra bien ce que ça donne.
Ça veut dire quoi, faire plus que la sédation?
C'est-à-dire que passer à des produits létaux pour tuer la personne. Alors que la sédation est un produit, c'est le fait de calmer les douleurs et de pouvoir éventuellement arrêter les traitements quand la personne le désire sans qu'elle souffre et qu'elle s'endorme tranquillement.
Il m'a beaucoup étonné dans l'approche du film, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et après, dans la manière de traiter justement la maladie, l'acceptation et donc aussi le refus de la maladie de la part du compagnon et la manière dont cette personne malade a réagi vis-à-vis de la proposition médicale qu'on lui faisait et qu'elle n'a pas choisie. Donc ça, c'était pas forcément banal. Et surtout de le faire accepter à son compagnon. Le film termine sur un mystère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'elle a bénéficié justement de soins palliatifs ou pas? Ça, l'interrogation y reste. Et qu'est-ce qu'elle a fait de la fin de sa vie et comment elle est partie, quoi.
C'est un film qui vous apporte quelque chose, qui peut éventuellement vous amener à un questionnement par rapport aux soins palliatifs ou au fait de laisser tout.
Oui, d'où l'importance des soins palliatifs par rapport à ces périodes de vie. Et après, c'est vrai que il était difficile d'accepter l'un et l'autre des choix. C'est-à-dire à la fois celui qu'elle a fait et celui que lui aurait voulu qu'elle fasse.
Parce qu'il y a l'acceptation de celui qui va mourir, mais la famille, c'est un poids aussi pour la personne qui va décéder.
Tout à fait, c'est tout à fait. C'était la torture qui nous a été proposée, et donc on a vécu, bien sûr, au travers de ce film. Mmh. Et cet amour qui était très fort. Voilà, donc ça. Bon, c'était un film en effet très émouvant et très impliquant au niveau humain, qui fait à la fois réfléchir et justement à la limite la discussion qu'on a eue à la fin du film avec le service des soins palliatifs est vraiment très réconfortant et c'est quelque chose vraiment à pousser, quoi. Cette loi Leonetti doit être appliquée au mieux et à la lettre, quoi. Voilà. Ça, je crois qu'on peut vraiment encourager ces gens et encourager les gouvernements pour l'appliquer et être obligé de l'appliquer, quoi.
J'ai l'impression qu'on en est encore loin.
Alors je suis un monstre d'ignorance, mais j'avoue que je crois que oui, par rapport à ce qu'on entend, on en était loin, on est peut-être loin. Par rapport à l'équipe du 04, on voit qu'ils sont attachés à le faire. Ma foi, ben, que ce soit la même chose pour tous les lieux de France et d'ailleurs, j'allais dire. On ne veut pas se faire voler notre mort, voilà, non plus. Voilà, ça c'est... Voilà, c'est un souhait de... On ne doit pas se faire voler notre mort.
Ça veut dire quoi exactement ?
On ne doit pas prendre le geste à notre place, quoi. On ne doit pas décider à notre place.
Bien sûr. Que ce soit les médecins ou la famille, enfin...
Oui, mais la famille, elle sera bien sûr au courant. Et puis à partir du moment où on partage la même foi, on a une confiance aveugle dans cette chose-là, quoi.
Ce soir, vous avez découvert ce qu'étaient les directives anticipées ou
non,
vous saviez ?
Non, pas du tout. Les directives anticipées, je savais. Par contre, j'ai trouvé remarquable l'équipe de soins palliatifs dans leur approche aussi bien donc, du malade, de la famille, de toutes les structures. Apparemment, je vois des gens bien formés. C'est rassurant. Voilà.
Pour fêter les bénévoles.
C'est à Manosque cette année qu'aura lieu la fête du bénévolat le 8 décembre. Les comités départementaux de la Fédération française des métayers de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif organisent cette manifestation pour mettre à l'honneur les bénévoles, chevilles ouvrières des associations et clubs sportifs. Leur action offre une grande diversité d'activités aux enfants, jeunes, adultes et aux seniors. Le 17 décembre 1985, l'ONU créé à New York la Journée mondiale du bénévolat afin de promouvoir le rôle de ces derniers pour le développement économique et social au niveau local, national et international. Mais c'est aussi pour mettre en avant la présence de ces structures associatives qui s'efforcent de répondre aux divers besoins de la vie sociale, principalement auprès des jeunes et des quartiers difficiles. Membre des médaillés Jeunesse et Sport du 04, Alain Canu répond aux questions de Chris Alessandri.
Il s'agit tout simplement de mettre à l'honneur toutes les personnes qui ont participé dans une action de bénévolat dans le temps. Ces personnes-là, qui sont souvent ignorées, qui ne se manifestent pas, c'est un moment privilégié dans l'année. Tous les ans, le 5 décembre, nous mettons les personnes à l'honneur. La journée nationale du bénévolat, ça va regrouper automatiquement toutes ces personnes-là qui ont mené des actions pendant des années ou des actions spontanées, que ce soit du bénévolat associatif, parce que notre fédération, c'est la Fédération française des médaillés de la jeunesse des sports et de l'engagement associatif. Et dans l'engagement associatif, effectivement, nous allons retrouver toutes les personnes qui ne sont pas forcément dans le sport, mais qui ont une responsabilité de solidarité, d'aidant auprès d'autres personnes.
De quelle façon est-ce que vous allez recenser ces personnes ? Parce que souvent, ce sont des personnes qui restent un peu dans l'ombre, justement, et qui n'ont pas envie de se mettre sous les projecteurs.
C'est la grande difficulté. La grande difficulté, c'est que toutes ces personnes sont tellement investies qu'ils ne pensent pas forcément qu'il y a d'autres personnes qui pensent à eux. Et ces autres personnes, eh bien, c'est un peu la fonction de la fédération, de les mettre à l'honneur, de les faire jaillir, de montrer leur lumière au grand public, par une très simple distinction, mais honorifique, de leur octroyer ce diplôme-là de bénévole, d'honneur à ces personnes.
Vous-même, en tant que personne qui est au cœur de l'événement, comment est-ce que vous définissez le bénévolat ? Pour vous, c'est quoi ?
Le bénévolat, c'est une action qui nous anime intérieurement. Ça ne se décrète pas. C'est le plaisir qu'on a à donner et aussi à recevoir. Il ne faut pas l'oublier parce que même si on n'attend pas de recevoir, le peu qu'on a de retour, c'est grandiose.
Est-ce qu'on peut dire que le bénévolat, il est là, il existe vraiment, compte tenu de certaines conditions, certains paramètres que nous rencontrons au fur et à mesure dans la vie ?
Il y a une grande désaffection du bénévolat en France. Donc aujourd'hui, les valeurs On peut parler de valeur du bénévolat. On a du mal. On a du mal à ce que les personnes se manifestent pour venir aider, pour venir, notamment chez les jeunes, il y a un manque d'enthousiasme par rapport à ceci. Peut-être parce que nous sommes aussi fautifs et qu'on n'a pas su leur donner cette valeur du bénévolat. On a passé au travers de la raquette, comme on dit souvent, et on n'a pas su nous donner aux jeunes la possibilité de s'investir.
Comment va se dérouler cet événement? De quelle façon?
Alors chaque année, la journée du bénévolat, c'est le 5 décembre. Ceci depuis 1985. Petit historique, le bénévolat, c'est 1929 avec le président Doumergue qui a honoré par une médaille les personnes qui étaient dans l'éducation physique à l'époque. Après, ça a un peu évolué, bien entendu, pour arriver en 2014, où on a eu une appellation de Fédération française des médaillés de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif. Et c'est dans ce sens-là qu'on récompense toutes ces personnes. Donc nous, on va se retrouver le 8 décembre à Manosque, dans les locaux de Vista Plus. C'est les anciens locaux de Pôle emploi. Et là, les organisateurs de cette association-là nous accueillent pour cette manifestation où il y aura plusieurs partenaires, environ une vingtaine de partenaires qui seront mis à l'honneur lors de cette soirée. Une présentation de ce qu'ils feront et puis après le pot d'honneur pour clôturer cette soirée. Elle va commencer vers 18h30 et ça se termine vers 20h. Les récipiendaires auront leur diplôme plus des petits cadeaux qu'on a prévus, mais on ne le dit pas pour l'instant.
Qu'est-ce que vous pensez de cet élan de bénévolat qu'il y a comme ça autour de vous et puis ces élans spontanés? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
On retrouve aujourd'hui dans ce bénévolat qui est de plus en plus senior, je dirais, parce que c'est eux qui s'investissent le plus dans le bénévolat, parce qu'ils ont, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, des valeurs. Ils ont aussi l'entraide et la solidarité de plus en plus dans notre société qui doit être mise à l'honneur et soutenue. Amener les jeunes vers ceci, il y a aujourd'hui des associations qui travaillent l'intergénérationnel. Et là, nous avons quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, où nous avons ces jeunes-là qui prennent le relais, qui vont leur servir de tremplin social par la suite. Il ne faut pas l'oublier parce que soit ils font le service civique, mais soit aussi ils mettent des actions auprès d'autres jeunes, de seniors. Et c'est assez intéressant pour leur tremplin par la suite, parce qu'ils font quelque chose de concret, sans rien demander finalement. Ils sont à la disposition des autres. Cette action de journée nationale du bénévolat, elle se fait, comme je vous disais, partout en France. Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, elle se fait aussi dans différentes villes. Peut-être pas le même jour, mais en tout cas sous l'égide de notre présidente Solange Marinenko, qui est la présidente du comité départemental de la Fédération française des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, mène cette action auprès de ses différentes pôles, je dirais, nord, sud, ouest et est. Et donc anime avec son groupe ces soirées. Là. Sont invités aussi dans cette organisation les élus. Les pompiers seront aussi à l'honneur cette année. Alors ça se fera lundi 8 décembre à partir de 18h à l'accueil dans les locaux de la Vista Plus 04 qui nous mettent gracieusement leurs locaux à disposition pour cette manifestation.
Et c'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci Louis. À la semaine prochaine. Juste avant de se quitter, quelques informations et quelques réjouissances dans la région de Manosque, avec de la musique notamment, mais pas uniquement. Tout d'abord, on commence avec le dimanche 27 novembre. Ce sera à 17h30 à Pierre Vert, avec du jazz au caveau de la Frache. Le trio Sébastien Cartier, excellent saxophoniste. Sébastien est accompagné par Farah Sina au chant et Sébastien Germain au piano. C'est organisé par l'atelier blues et jazz de Pierre Vert. L'entrée est fixée à 12 euros et 10 euros pour les adhérents. C'est donc le dimanche 27 novembre à 17h30 au caveau de la Frache à Pierre Vert. Le en trio, le Sébastien Cartier en trio, en concert. C'est du jazz bien évidemment et du jazz de qualité. Une deuxième chose, ça n'est pas du jazz, mais c'est du théâtre, et du théâtre organisé par le Rotary Club de Manosque. La Tresse, qui est une pièce adaptée du roman de Laetitia Colombani, adaptée et interprétée par Hélène Ardenne, mise en scène par Valérie Rodriguez. C'est au théâtre Henri Fluchère à Saint-Tulle, jeudi 1er décembre, à 20h30. Un tarif à 20€, mais attention, cette soirée spéciale du Rotary est organisée en faveur des familles ukrainiennes qui sont accompagnées justement par le club du Rotary de Manosque. Le Rotary, je signale que c'est aussi l'organisation d'échanges scolaires, l'aide aux jeunes en recherche d'emploi, des actions en faveur de l'environnement, etc. etc. Bref, cette soirée théâtre La Tresse, donc, du roman de Laetitia Colombani avec Hélène Ardenne, c'est au théâtre Henri Fluchère à Saint-Tulle le 1er décembre à 20h30. Et pour toute information, vous pouvez réserver auprès de l'Office de tourisme de Manosque. Le tarif est fixé à 20€ et c'est au bénéfice des familles ukrainiennes. Enfin, et là, une manifestation très originale, c'est un karaoké, mais pas comme les autres. Le karaoké qui est accompagné par des vrais musiciens en chair et en os et qui seront sur scène dans le cadre d'un groupe qui s'appelle À vous de chanter. Ce sera le samedi 3 décembre à 18h, c'est à la salle de l'Éden à Oraison, et donc des musiciens qui seront là pour vous accompagner dans vos choix de chansons. C'est proposé par la mairie d'Oraison, l'entrée est entièrement gratuite avec une restauration et buvette sur place, et c'est comme ça se passe le samedi 3 décembre, c'est dans le cadre du Téléthon 2022, innover pour guérir. Donc à vous de chanter, c'est à la salle de l'Éden à Oraison, un karaoké concert avec des musiciens. Voilà, c'est la fin de ce magazine, à la semaine prochaine.